decidere coronea partidei. Delgado acolo este
Lettre romande avec Julien Sansonnance.
Bienvenue dans Lettres romandes, le podcast consacré à la littérature sous toutes ses formes, en Suisse romande et ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons Carole Dubuis, auteure et présidente de l'association Tu l'as lu. Carole Dubuis, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui nous écoutent ?
Oui, Carole Dubuis. Alors, je suis auteure et puis présidente de l'association Tu l'as lu, qui a pour but de promouvoir la littérature suisse romande.
D'accord. Vous venez de la région de Lausanne, hein, je crois.
Oui, exactement. Donc, la région de Lausanne. J'ai grandi à Savigny, près de Lausanne, à la campagne. J'habite à Lausanne depuis 2009. Lausannoise depuis 2009.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre milieu social, de votre famille et puis de votre enfance finalement dans la campagne, hein, parce que je crois que Savigny, c'est. Même si c'est pas très loin de Lausanne, c'est quand même la campagne.
Oui, c'est la campagne. En fait, j'ai grandi vraiment à l'extrémité du village, donc en pleine campagne, à côté d'une ferme, donc à Savigny. Et puis, je suis restée jusqu'à mes 11 ans. Donc j'ai vraiment été au calme, je dirais, pendant toute cette partie-là de mon enfance. Et puis, c'est vraiment dans le jardin de mes parents où j'ai commencé à lire beaucoup de romans assez jeune, quoi. J'ai vraiment un souvenir du jardin et puis de ce sentiment de ce que mon père me donnait des livres à lire et d'avoir développé là le goût vraiment de la lecture, hein. C'était vraiment très fort, hein, comme souvenir.
C'est votre père qui vous conseillait des lectures?
C'est mon père. Mon père a enseigné, puis après est devenu directeur du gymnase de Beaulieu.
Et ah, d'accord.
Voilà, donc du coup, il enseignait l'économie politique, mais il a toujours beaucoup aimé le français, la lecture. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a donné le goût de lire d'abord. Et puis il corrigeait mes textes quand j'écrivais des petites nouvelles. Donc c'est vraiment ça vient de lui, cette curiosité-là, je dirais.
D'accord. Et vous vous souvenez un peu ce qu'il vous proposait comme lecture?
Le premier, c'était Alphonse Daudet. Les lettres de mon moulin, ça je me rappelle très bien. Ensuite, tout ce qui est un peu Flaubert, Maupassant.
Ah oui, quand même, pour des premières lectures, c'est pas forcément les plus accessibles.
C'est ça qui était assez. Je pense que je comprenais vraiment pas tout ce que je lisais, évidemment, mais ça a une influence vraiment très grande sur mon orthographe, par exemple. Ça, je me rappelle vraiment très bien d'avoir découvert des mots. D'avoir cherché dans le dictionnaire. Enfin, évidemment, on ne comprend pas tout, mais il y a déjà quelque chose qui est là. Et donc, oui, ce n'était pas facile, mais je pense qu'il ne se rendait pas forcément compte. Il me disait, essaye de lire ça. Donc, ça a pris. Et puis, ensuite, on a déménagé à Épalinges quand j'avais une douzaine d'années. Et là, je suis restée toute mon adolescence. Donc, c'était plus proche de la ville. Puis, j'ai continué, j'étais bonne en français, j'ai fait moderne, et puis après, j'ai fait le gymnase, j'étais toujours bonne en français, puis après, je ne me suis pas tellement posé de questions, puis j'ai commencé l'Uni en lettres. Donc, il n'y a pas eu vraiment de tellement de choix, en fait. Puis, je continue dans cette voie.
Et puis, cette enfance, donc, à l'extérieur de la ville, à la campagne, est-ce que c'est quelque chose qui imprègne aujourd'hui votre écriture? On va en parler un petit peu plus tard, hein, des thèmes qui vous intéressent, etc. Mais est-ce que c'est quelque chose qui revient aujourd'hui dans votre écriture?
Alors, paradoxalement, c'est vrai que je me sens vraiment citadine.
D'accord.
La campagne, j'apprécie quand je suis peut-être en vacances ou vraiment quelques jours, mais je m'ennuie vite. Dans la nature me fait plutôt peur que je me sens bien plutôt dans les villes pour écrire, par exemple. Mais c'est vrai que je trouve que la nature, paradoxalement, est aussi une source d'inspiration. Enfin, c'est vrai que quand je me promène en train, que ce soit dans la nature, c'est là, c'est vraiment là qu'il se passe aussi des choses. Donc c'est un drôle de rapport avec ça. C'est que je me sens bien plutôt dans les villes. Je me sens plus dans mon élément. En même temps, la campagne me fait... Enfin, c'est un peu sublime. Elle me fait à la fois peur et à la fois... C'est là que naît peut-être quelque chose. C'est peut-être là que naît l'inspiration, mais j'ai besoin d'être dans la ville pour l'écrire, pour peut-être après continuer sur cette inspiration-là. C'est très particulier. Donc, je ne sais pas si vraiment cette enfance à la campagne m'a vraiment donné le goût, m'a vraiment laissé une envie vraiment d'aller à la campagne. Je ne suis pas certaine. Pas si c'est une influence non plus. Je n'arriverai pas tellement à le déterminer.
C'est vrai aussi que Lausanne étant quand même une petite ville, voilà. La nature n'est jamais très loin.
Et puis
on n'est pas au cœur de Manhattan non plus.
Exactement. Hein,
ouais. Tout à fait. Alors, je crois savoir que vous êtes venu à l'écriture par le théâtre. Est-ce que c'est bien le cas?
D'abord, c'était par des petites histoires, des petits récits.
D'accord.
Et puis, après, effectivement, comme j'ai commencé le théâtre à 13 ans, ça m'est apparu assez clairement qu'il fallait que j'écrive du théâtre. Parce qu'il y avait tellement ce rapport, on joue, on écrit, on va sur scène, ça se transforme. Ça me paraissait assez évident. Mais j'ai commencé par des petites histoires, des nouvelles. Et ça, je crois que ça me rattrape maintenant. C'est-à-dire que j'ai plus envie maintenant de retourner à mes premiers amours, si je puis dire comme ça. Parce que le théâtre, finalement, c'est une écriture qui est très difficile pour moi. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui met beaucoup de choses dans mes textes. Donc, j'apprends vraiment au fur et à mesure des années à mettre de moins en moins de choses dans mes textes pour qu'ils soient le plus théâtral possible. Mais pour moi, c'est encore vraiment un point d'interrogation. Je suis pas sûre que je sais écrire et que je saurai un jour écrire du théâtre, mais j'essaye. Mais c'est vrai que c'est plus par rapport à la transformation directe qu'on peut voir sur une scène. C'est-à-dire, on donne un texte, il y a une première transformation quand les comédiens s'en emparent, puis il y a un lâcher-prise parce que c'est plus du tout à nous, ça va encore se transformer. Et après encore, quand il y a le public dans la salle, il y a une seconde transformation. Donc, pour moi, c'est un mystère, voilà, d'écrire le théâtre.
Vous dites que vous mettez de moins en moins de choses dans vos textes. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pas quelqu'un qui aimait ces grandes descriptions ou qu'est-ce que vous entendez par là en fait?
C'est-à-dire que comme je venais plutôt comme j'avais fait plutôt des petites nouvelles puis qu'après j'ai plutôt étudié la littérature en lettres, j'avais tendance vraiment à faire plutôt des tirades explicatives, des énormes monologues où je mettais en fait, tout ce que ressentaient les personnages, alors qu'en fait, au théâtre, il y a un geste qui peut tout expliquer. Disons que j'ai plus essayé de développer les didascalies, puis d'essayer de moins dire, puis de laisser des sous-entendus, une fois que le texte est dit à haute voix, laisser la possibilité aussi au geste, à tout ce qui est sous-entendu, et pas tout expliquer.
D'accord.
En fait, voilà, pas tout décrire. C'était mon défaut principal.
Tout à fait.
Je lutte encore beaucoup.
Sans doute une forme de maturation aussi dans le travail d'écriture, probablement.
J'espère.
Ouais, tout à fait. Est-ce que la période du gymnase a joué un rôle pour vous dans cette envie d'écrire, dans cet amour de la littérature? Très souvent, c'est quand même la période où on découvre les auteurs classiques. Alors bon, vous avez eu la chance de les découvrir peut-être un petit peu plus vite grâce à votre père, mais très souvent, les auteurs, ou en tout cas ceux qui ont fait le gymnase, expliquent que c'est vraiment à cette période-là qu'ils sont venus à la littérature. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi?
Oui et non. Oui, parce que j'en ai découvert beaucoup plus, et ça, j'ai apprécié, mais... Je crois que j'ai été assez lente aussi, paradoxalement, comme on le disait avant, le fait d'avoir découvert les livres assez tôt, enfin les classiques, je pense qu'il y a des choses que je comprenais, il y a des choses que je comprenais pas, et j'ai l'impression que d'avoir évolué assez lentement, moi, par rapport à ces classiques, et même au gymnase, des fois, pour avoir relu des classiques après maintenant, je me dis que je les comprenais pas, enfin que j'ai mis du temps vraiment à comprendre les enjeux, à apprécier vraiment tous les classiques. Et moi, je dirais que c'est plus à l'une que j'ai vraiment découvert. C'est à l'une que ça s'est transformé. Mais au gymnase, je me souviens qu'il y avait des textes qui ne me parlaient pas tellement, quoi. comme Rousseau, enfin que j'ai compris après coup, vraiment, plusieurs années plus tard, ça m'a pris du temps. Mais j'ai jamais perdu le lien non plus avec l'écriture à ce moment-là. Donc, je crois que c'était toujours là que ça se développait. Mais je parlerai plus du début de l'Uni que du gymnase.
D'accord, d'accord, tout à fait. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va parler de votre écriture. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernière nouvelle qui, je crois, s'appelle « Qui a osé ?»
Oui. Oui, alors ça, c'est une nouvelle que j'ai écrite pour un concours proposé par les éditions Encre Fraîche sur le thème du masque. Et c'est une nouvelle qui se passe au pays d'en haut, même si je le cite pas. Pour moi, c'était important parce que la famille de mon père vient du pays d'en haut. Et puis, c'est une région qui m'a toujours beaucoup inspirée parce que on avait encore beaucoup de vieilles tantes qui étaient vivantes, qui racontaient des histoires.
Des légendes.
Pas forcément des légendes, mais des histoires de famille, des mots de patois. Enfin voilà, c'était assez particulier. Mais il y avait un fort talent, je pense, du récit, du conte, quoi, qu'elles avaient toutes. C'est des femmes qui avaient souvent pas pu être enseignantes, pas pu faire l'école normale parce que la famille manquait de moyens, mais elles auraient dû. Elles avaient tout pour le faire, elles n'ont pas pu, donc elles racontaient volontiers. Et puis, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est donc une grande tante à moi qui racontait qu'un jour, elle était sœur d'une maman assez difficile, assez dure, et un jour, elle s'est fait punir pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait, et puis elle a ressenti tellement d'injustice qu'elle a décidé, ben voilà, je vais à la rivière, elle avait 8 ans, je vais à la rivière et je vais me noyer, voilà. Parce que ça peut pas continuer. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné qu'un enfant puisse se dire ça et de ressentir autant d'injustice. Donc ça a été le début le début de ma nouvelle qu'après j'ai transformée. Voilà, c'est pas du tout la même histoire, mais ça part de là, ce sentiment d'injustice avec la mère, cette dureté qu'il y avait aussi avec l'enfant. Aujourd'hui, c'est peut-être les enfants sont un peu rois, mais à l'époque, je trouve qu'il y avait il y avait cette dureté où j'ai aussi une autre grande tante qui racontait qu'elle se faisait battre au ceinturon, qu'elle avait perdu avait perdu sa petite sœur qui s'était noyée, puis elle s'était fait encore battre à la maison parce qu'on pensait que c'était sa faute. Enfin, cette dureté-là, j'avais envie d'en faire quelque chose. Donc, voilà. C'est le début de l'histoire. C'est un enfant qui par sentiment d'injustice veut aller se noyer. C'est le début de mon histoire.
D'accord.
Très gay, mais
Masque, il y a une idée de secret là derrière.
C'est-à-dire que une fois arrivé donc à cette rivière, enfin en l'occurrence j'ai transformé ça, c'est un lac. La petite fille trouve quelque chose dans l'eau.
D'accord.
Et il y a une histoire de meurtrier, il y a une histoire de meurtrier qui porte un masque, donc c'est...
D'accord.
Voilà.
Sans raconter la fin, d'accord.
Non, pas tout.
Absolument. Et si on veut la lire, cette nouvelle, on la trouvera où, alors?
Alors, elle va sortir dans un recueil, donc je crois qu'on a une dizaine d'auteurs à avoir été sélectionnés, 14, si je ne m'abuse, et puis ça sortira au Salon du Livre. Il y a un vernissage le 2 mai, au Salon
D'accord,
du
le
Livre.
2 mai.
Voilà, c'est là qu'on pourra le trouver. Je pense qu'après, il sera dans les librairies.
Vous y serez, si on veut vous rencontrer, on peut vous trouver au Salon du Livre.
Exactement. Donc c'est le 2 mai à 11h. Il y a le vernissage,
d'accord,
et puis on dédicace le dimanche à 11h, entre 10 et 11h aussi.
D'accord, voilà. C'est noté. Et au Salon du Livre, il y aura peut-être aussi l'association Tu l'as lu. Ça nous permet d'enchaîner sur cette association que vous avez cofondée, en 2010, sauf erreur, et dont vous devenez présidente en 2013.
Oui. Oui.
C'est bien exact?
Oui. Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse de cette association? Qu'est-ce qui vous donne envie en 2010 de créer une association littéraire, donc un cercle littéraire, on peut peut-être appeler ça comme ça?
Alors moi, ce qui est peut-être important de dire, c'est que j'ai rien créé, c'est-à-dire que c'est un ami que j'ai rencontré qui s'appelle Miguel de Moura, qui à l'époque était cuisinier et qui était un grand passionné de littérature. Il m'avait donné une fois sa carte, il proposait des rencontres, puis j'étais allée, c'était au cinéma. Et puis là, ce que j'avais trouvé assez incroyable, c'est qu'il y avait des tas de gens qui venaient, Donc, il y avait souvent un thème, puis les gens venaient avec les livres qu'ils aimaient, les livres qui correspondaient au thème, et il y avait des discussions. Souvent, il y avait aussi Miguel étant assez sociable, il y avait souvent un écrivain local, régional, qui était là, qui participait. Mm-hmm. Et puis, ben, je me suis pas mal investie, en fait, dans ces rencontres. Et puis, en 2010, on avait tellement d'écrivains qui étaient autour de nous qu'on s'est dit... En fait, on devrait faire une association autour des écrivains suisses romands. Donc voilà comment c'est. En 2010, comment ça s'est poursuivi en devenant vraiment une association avec des statuts, avec à chaque fois un invité, avec des entretiens, avec aussi des lectures d'artistes. Enfin voilà, voilà comment ça s'est. Moi, je me suis plutôt investie dans ce qu'il y avait déjà. Et puis, c'est pour saluer aussi le travail de Miguel parce qu'il a fait. Il a mis beaucoup de motivation là-dedans, tout un temps. Il a aussi complètement assumé financièrement ses rencontres. Donc, c'est vraiment, ça m'a touchée, en fait, cette espèce d'amour d'intérêt d'amour, comme ça, pour la littérature. Et puis aussi, cette envie de valoriser les écrivains régionaux, puis de montrer qu'ils sont là, de pouvoir... les invités, que le public les rencontre, achète le livre. Enfin, voilà, cette proximité qu'il y a dans ces rencontres, que je trouve vraiment très intéressante.
Alors, tu l'as lu avec d'autres. Vous participez sans doute à, je ne sais pas s'il faut appeler un renouveau de la littérature romande, en tout cas un renouveau dans l'intérêt pour la littérature d'une manière générale. Hein. On pouvait penser, il y a encore quelques années, qu'un cercle littéraire, ça avait un côté comme ça très poussiéreux, très ronronnant, une espèce de club de vieilles dames qui se rencontrent pour discuter. Ouais. Avec Tu l'as lu, on est dans quelque chose de complètement différent. Est-ce que vous avez cherché à casser cette image, peut-être à rajeunir un petit peu la littérature, d'une certaine manière ?
Je crois qu'on n'avait pas cet objectif-là, mais on est arrivé à un moment donné, quand on est devenu une association, on est arrivé à un moment donné où il y avait peu de choses qui se passait, parce qu'il y a eu une vague il y a plusieurs années où il y avait quand même pas mal de cafés littéraires. Et puis, on est arrivé à un moment où il n'y en avait pas. Enfin, il y avait le Tastemo, mais c'était des événements beaucoup plus ponctuels. Et on est arrivé à un moment donné où il n'y avait pas. Donc, quand on a commencé nos activités, on était au Verre à Pied, on est passé du cinéma au Verre à Pied, puis c'est vraiment au plein centre. Et là, il y a eu vraiment énormément de public. C'était impressionnant, c'était plein souvent.
Ah oui, c'est un petit endroit en plus. Hein.
Voilà, c'est un petit endroit, mais il y a eu la presse, il y a eu la radio, puis c'était un peu, il titrait vraiment le retour des cafés littéraires. Donc, je crois qu'on arrivait à ce moment-là et on cherchait rien, simplement, on voulait faire nos rencontres. Je crois que c'était pas une démarche. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à ce moment-là, que la littérature suisse romande, souvent on n'allait pas chez Payot pour acheter un livre suisse romand. Enfin, moi, j'ai jamais eu cette idée, alors que c'est les lettres, enfin, honte à moi, mais j'ai pas eu cette idée-là. Et le fait, je crois, ce qu'on avait le plus envie, c'était que ce soit pas quelque chose d'académique, mais que ce soit profond quand même, mais que ce soit accessible à tout le monde, qu'on parle autant du fond que de la forme et aussi des choses plus anecdotiques. Et je crois qu'on cherchait à ce que ce soit surtout, accessible à tous. C'est surtout ça.
Voilà, je crois que pour les personnes qui ne seraient pas encore venues à une soirée Tu l'as lu, c'est vraiment un espace de... En tout cas, moi, je l'ai vu et perçu comme ça, un espace de convivialité où effectivement, on n'est pas du tout dans une explication de texte académique ou scientifique. On est vraiment dans le partage avec l'auteur. Dans un dialogue finalement entre la salle et l'artiste ou les artistes qui sont présents. Et il y a vraiment une ambiance de convivialité. Hein. Je ne sais pas bien quel est le secret de votre réussite, mais on sent vraiment une convivialité qui témoigne aussi, qui se manifeste par le public important qui vient à vos soirées. Hein.
Oui, je crois que c'est vraiment le mot. Alors, ça me fait plaisir si vous l'avez ressenti comme ça. La convivialité, la proximité, le partage, ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Et puis alors, on ne sait pas comment sont venus les gens. C'est vrai qu'au Verre à Pied, on avait un public qui était très, très régulier. Il y avait beaucoup de monde. Quand on a après déménagé au Lausanne-Moudon en 2011, le public n'a pas suivi. Donc, on a aussi dû se remettre en question, savoir où on allait. Il y a un autre public qui est arrivé, mais là, ça varie aussi. C'est surtout lors des soirées spéciales qu'on organise 3 fois par année dans d'autres lieux sur des thèmes bien précis. Comme là, dernièrement, c'était la soirée à laquelle vous avez participé, sur Lausanne, ou sinon la poésie. Mais là, il y a vraiment un succès. Les gens sont au rendez-vous pour les rencontres officielles, donc avec un auteur tous les premiers lundis du mois. Ça varie beaucoup, ça dépend de quel auteur est invité, à quel moment est sorti son livre, les autres actualités littéraires qui se passent ailleurs. Il y a quand même de plus en plus de choses. Donc ça dépend, ça c'est toujours un combat, c'est pas un combat, mais il faut toujours qu'on s'interroge. Et puis c'est vrai qu'en 2013, moi, je suis devenue présidente, puis on a eu un nouveau comité, enfin, des personnes nous ont rejoints, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a repris d'autres décisions, on a essayé d'affiner, et puis on avait surtout de plus en plus de demandes, donc ça veut dire qu'on a dû faire un comité de lecture en disant, l'idée, c'est de refuser personne, je veux dire, on n'est pas le jury, d'un tel prix, on n'est pas un média, voilà, notre but c'est pas de critiquer, notre but c'est d'accueillir, mais on est quand même obligé au vu du nombre de personnes qui aimeraient venir, de savoir qu'est-ce qu'on aimerait, de fonctionner un peu au coup de cœur aussi, ou alors d'inviter des gens maintenant pour 2016-2017, donc ça aussi c'est étrange, mais on doit toujours se développer, on a l'impression que ça devient de plus en plus grand, puis qu'on on commence à être un peu limité aussi dans nos forces.
Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Finalement, est-ce que vous ne craignez pas de devenir trop grand et peut-être de perdre aussi une partie de cette convivialité qui dépend quand même de la taille humaine, finalement, des soirées et de l'association d'une manière générale. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Oui, c'est vrai que je pense qu'on a déjà perdu quelque chose par rapport au début. Parce que Miguel, il avait tellement son style aussi. Et puis maintenant, c'est Pierre Foncazard qui anime les rencontres, qui le fait très bien. Justement, là, c'est une nouvelle patte. Mais je crois que Pierre a très, très bien compris ce qu'on attendait, qu'on a envie que ça reste convivial. Alors, effectivement, nous, on aimerait bien peut-être par la suite que ça devienne plus grand, plus professionnel, que ça soit connu, simplement pour que les écrivains puissent être mis en avant. C'est vraiment le but. Mais peut-être c'est à double tranchant, effectivement.
Absolument.
Peut-être que si ça devient plus gros, plus institutionnalisé, ça risque de perdre son âme. Ça, c'est une question qu'il faudra se poser.
La professionnalisation, effectivement, c'est souvent un risque quand même de ces projets portés par des associations. À partir du moment où la structure se professionnalise, éventuellement où les gens commencent à gagner aussi un petit peu d'argent avec les activités, c'est vrai que ça peut potentiellement être un virage un petit peu plus compliqué à négocier. Mmh. Mais
je crois que pour l'instant, ça se passe bien dans les valeurs qu'on partage et qui sont partagées aussi par certains de nos sponsors qui apprécient ce qu'on fait tel quel. Donc, là, j'espère que ça va continuer comme ça.
Est-ce que vous allez SMer un petit peu ailleurs en Suisse romande? Je vous êtes venu notamment en Valais il y a quelques semaines maintenant. Est-ce que c'est un de vos projets finalement d'ouvrir peut-être des antennes Tulalu comme ça un petit peu dans d'autres cantons ou sous d'autres formes?
Tout à fait. C'est une volonté vraiment de sortir de que ça devienne intercantonal, de sortir du canton de Vaud. On a eu effectivement la chance d'être invité par la médiathèque du Valais et par la bibliothèque de la Jonction à Genève. Et ça, pour moi, c'était une des grandes joies, parce que j'ai réalisé que c'est vraiment, quand la médiathèque du Valais vous invite, vous dit, on prend en charge les frais, mais vous venez, puis vous faites votre soirée là, pour moi, c'était vraiment une joie de se dire, tu l'as lu, va là-bas, animer une soirée, c'est quelque chose de suisse romand. Et puis, pourquoi pas aller aussi à Fribourg, à Neuchâtel, dans le Jura, j'aimerais bien que ça bouge. Et à chaque fois, c'est des rencontres extraordinaires. Je veux simplement d'aller voir comment ça se passe dans un autre canton. C'est souvent un accueil génial. La bibliothèque de la Jonction, c'était vraiment... Paul Guidoni qui a entendu parler de la soirée à Lausanne, plaisir de lire, qui a dit « je veux la même à Lausanne, à Genève ». Donc, quand ça commence, quand les soirées peuvent revivre comme femme. J'ai trouvé ça fantastique. J'espère que ça va se développer, ça. Oui.
D'accord.
Ouais.
Alors, en 5 ans d'existence de Tullalu, dont vous êtes la présidente, vous avez sans doute acquis une bonne vision de la production littéraire romande. Alors d'abord, est-ce qu'il existe une littérature romande, hein? C'est un débat aujourd'hui,
Oui, c'est un
prise de
débat, effectivement.
un papier dans le temps, là, il y a quelques jours, qui posait cette question, est-ce qu'il faut parler de littérature romande? Et
Ouais.
puis, cette littérature romande, si elle existe, comment se porte-t-elle?
Est-ce qu'elle existe? Nous, on l'appelle littérature, on dit promotion de la littérature suisse romande, mais c'est pas forcément dans un sens pour la qualifier, c'est simplement géographique, je dirais. C'est pour mettre en avant. Moi, je crois que vraiment, on le ressent comme ça, c'est pour mettre les écrivains d'ici en avant. Pour avoir lu pas
Y a
mal de
pas.
littérature suisse romande depuis quelques années, effectivement. Je ne sais pas s'il existe vraiment une littérature suisse romande. Je crois qu'effectivement, dans l'article, c'était plutôt, enfin, la suggestion, c'était plutôt de ne pas l'appeler littérature suisse romande. Je crois que c'est de
Absolument.
la littérature, tout simplement. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force d'en lire beaucoup, le fait d'avoir tout à coup, relu un auteur français, c'était
Ouais.
différent. Donc, je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas si c'est moi qui ai lu pendant 5 ans de la littérature suisse romande et puis qui. Et je serais même pas qualifiée d'ailleurs si je questionne qu'elle est suisse romande ou pas. Moi, je crois pas. Je crois qu'on a eu tellement d'auteurs différents, avec des styles différents, avec une personnalité différente, que je dirais pas que c'est une littérature suisse romande puis qu'elle n'est pas spécifique. Enfin, voilà. Mais je dirais que. Pour nous, c'était plus de mettre en valeur des écrivains d'une région. Voilà, c'était plus
C'est ça, absolument. Alors, il y a une grande diversité hein, parmi ces auteurs romans. Est-ce qu'il y a quand même peut-être des thématiques un petit peu transversales comme ça qui viennent ou des, je sais pas, des modes qui tout d'un coup on retrouve, que tout d'un coup on retrouve chez certains auteurs? Est-ce qu'il y a des intérêts partagés finalement parmi les auteurs que vous avez lus, par exemple?
Oui, moi je dirais la solitude, une certaine solitude face à la société, une sorte de folie sous-jacente. Je ne sais pas encore une fois si c'est propre à la littérature suisse romande, mais ça m'a beaucoup frappée.
Peut-être propre à l'époque.
Oui, peut-être, oui. C'est propre à l'époque, tout à fait, je pense que ça. Mais ça revient. Ça revient. Ça m'a frappée, que ça revenait vraiment souvent. Et c'est comment on fait pour sortir de ça? Où est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on n'en sort pas? C'est un peu ce qui m'a frappée, mais je pense qu'on le retrouve. Voilà, c'est une question d'époque qu'on le retrouve ailleurs. C'est quelque chose aussi, souvent, c'est assez intimiste.
Voilà,
Il
ouais, tout à
y a
fait.
quand même quelque chose de aussi souvent de poétique dans ces textes. C'est parfois pudique, je crois pas tellement que certains auteurs réalisent leur talent. Il y a une sorte de tout, une espèce de pudeur, je pense une comparaison peut-être si c'est à l'étranger, je sais pas, hein, qui est inconsciente, mais il y a pas mal de trésors et
Qui peut-être s'ils avaient été publiés en France, hein, puisque ça reste toujours le phare comme ça,
oui.
aurait connu un bon succès selon vous?
Oui, après, il y a encore la question de la langue. Hein. Souvent, il y a aussi des régionalismes hein, qui sont là. Moi, j'adore, par exemple, l'auteur qu'on va accueillir, Alexandre Voisard, prochainement. Son livre, c'est Oiseau de hasard. J'avais envie d'aller dans le Jura, j'avais envie d'aller boire, enfin, d'aller manger là, d'aller vivre. Bon, ça se passe à l'époque, mais d'aller vivre dans ce canton à un moment donné. Tellement, pour moi, c'était incroyable de découvrir, justement, il y a beaucoup de mots de patois, mais ils passent très bien, on les comprend, enfin, c'est très, très naturel. Et à ce moment-là, c'est peut-être ça aussi qui fait la force, c'est justement le côté intimiste. Alors, si ces auteurs est-ce qu'ils auraient pu être publiés comme ça à l'étranger? Je sais pas. Je sais pas, et ça aurait été dommage de se priver de ces mots-là, justement, de tout ce vocabulaire, ce lexique. Enfin, je sais pas répondre à cette question, justement. Mais je crois que la littérature suisse romande, pour l'appeler comme ça, n'a plus du tout à rougir, et puis que c'est simplement une littérature comme une autre, et que,
Oui,
voilà,
tout
moi,
à fait, d'ailleurs.
il y a aussi,
Oui.
oui, pardon, il y a aussi beaucoup de livres qui sortent chaque année.
Oui, absolument. Une grande production éditoriale, beaucoup de maisons d'édition d'ailleurs, hein, pour un espace aussi petit, c'est étonnant finalement.
Oui, c'est étonnant. Alors moi, c'est vrai qu'on voit, on n'arrive pas à suivre au niveau des invitations. Et puis souvent, je pense que c'est aussi pour ça que ces rencontres ont du succès, c'est que de pouvoir sortir un livre, souvent il y a la subvention pour, mais après, tout ce qui est diffusion, tout ce qui est promotion, il y a un peu moins, quoi. C'est plus difficile. Donc, peut-être que c'est aussi une des raisons qui fait que, au moins là, on peut valoriser, valoriser un livre, en parler, le faire connaître. Peut-être que c'est ça aussi. Parce que moi, j'ai l'impression que la promotion, c'est, voilà, c'est, ça suit
un
pas
petit peu
toujours.
Le parent pauvre, finalement, de l'édition, en quelque sorte.
Voilà, oui, tout à fait.
Voilà. Même si on peut bien imaginer que dans les conditions parfois très précaires dans lesquelles se trouvent les éditeurs, c'est vrai que les modestes moyens dont ils disposent sont avant tout mis à produire des livres.
Exactement.
Et puis après, malheureusement, le marketing et la vente, finalement, c'est soit on n'a pas l'argent, soit c'est peut-être considéré comme quelque chose d'un petit peu moins noble et puis on s'en soucie un petit peu moins peut-être.
Tout à fait, oui.
Alors, vous citiez Voisard parmi les auteurs qui vous ont marqué. D'ailleurs, je suis allé voir sur votre site. Je crois qu'il est cité, hein, à la première page, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs comme ça qui vous ont particulièrement marqué pendant ces 5 ans de présidence? As-tu l'as lu?
Ben, pour citer les plus anciens, c'est vrai que de rencontrer Anne Cuneo, par exemple, ou Michel Vialard. Moi, j'aime beaucoup ses pièces. Donc, le fait de le rencontrer, de l'avoir interviewé, c'est très touchant. Surtout maintenant que tous les deux sont, Kineo et lui sont décédés, de se dire qu'on a pu passer on a pu profiter d'un moment d'échange avec ces personnes-là, c'est un sacré souvenir. Mais moi, c'est vrai que chaque rencontre, je crois, qu'on a faite, m'a laissé un souvenir. Il y a aussi beaucoup de jeunes écrivains qu'on a reçus, qui sont très dynamiques, qui se lisent les uns les autres, qui se soutiennent maintenant beaucoup sur les réseaux sociaux, qui font leur promotion puis celle des autres écrivains qui sont aussi leurs amis. Enfin bref, moi c'est vraiment, je trouve que chez chaque auteur, il y a eu quelque chose qui m'a touchée, même parfois quand j'avais moins aimé le livre. Le fait d'entendre la lecture, parfois un texte qui m'a moins plu à la lecture, quand j'en ai fait la lecture seule, de l'entendre par un comédien, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Mmh. Ou alors un livre avec lequel j'avais pas tellement d'affinité, mais entendre l'auteur s'exprimer, et je me suis dit, ah ouais, c'est ça qu'il a voulu faire, et j'ai compris des choses. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres très intéressantes. Après, mais c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour Anne-Frédérique Rochat, exemple.
Ouais.
Parce que
qu'on a interviewé d'ailleurs ici sur ce blog il y a quelques temps, effectivement.
Oui, c'est vrai. Récemment, hein.
Oui, voilà. Assez récemment, il y a quelques semaines, et qui effectivement produit des romans qui sont vraiment intéressants, toujours un petit peu dans la même veine,
oui.
Très travaillée sur la psychologie. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi.
C'est vrai que je pense que c'est aussi parce qu'elle fait des pièces de théâtre, qu'il y a quelque chose de très, enfin, il y a vraiment souvent un coup de théâtre dans ses romans, même des fois deux, trois. Et à chaque fois, je suis surprise. À chaque fois, je marche, et je trouve qu'en fait, elle a une écriture qui est aussi assez simple. C'est un compliment parce que ça marche, c'est facile, c'est psychologiquement très juste. Et peut-être que c'est aussi son côté auteur de théâtre, parce que je trouve que les caractères,
Oui, tout à fait. Il y a une sensibilité qui est très intéressante.
Les personnages sont bien construits, exactement. Oui.
Tout à fait. Alors, quelles sont les prochaines soirées, finalement, les prochains auteurs de Tu l'as lu?
Alors, le mois d'avril est très riche. Donc, il y a effectivement Tu l'as lu. Je pense que le comité de Tu l'as lu est assez sensible au fait qu'on est aussi une plateforme et qu'on met en avant des choses. Des fois, c'est sous forme de soirée spéciale, d'entretien, etc. Mais c'est aussi en donnant un espace. Donc là, le 9 avril, on entendra une nouvelle de Céline Dufray qui s'appelle Contorsion. Et là, on lui donne simplement un espace. Donc, ce sera au Lausanne Moudon.
Ensuite, ah oui, un format un petit peu différent. Oui.
Voilà, un format différent, on lui laisse vraiment une place. Ça, c'est le 9 avril. Ensuite, le 13 avril, on recevra Alexandre Voisard. Ça, c'est un entretien officiel avec Pierre Foncauser. Et puis ensuite, on aura, là aussi c'est un projet particulier, on parraine un projet qui s'appelle La Maison Éclose, qui réunit une quinzaine d'écrivains. C'est un projet de Pierre Crevoisier et ça se passera le 18 avril lors de la nuit de la lecture. Et donc pour l'occasion, c'est presque principalement que des auteurs suisses romands, donc ça rentrait en plein dans nos buts. Donc c'est 15 auteurs suisses romands ont écrit chacun une nouvelle inédite. Et ce soir-là, dans les anciennes écuries de Montrepos, les spectateurs pourront venir avec un mot de passe qu'ils trouvent en ligne, donc c'est maisonéclose.ch. Et ils peuvent se constituer un mot de passe et arriver le jour même devant un auteur et dire voilà, tel est mon mot de passe et l'auteur lui lira sa nouvelle. Donc c'est un beau projet. Voilà, ça c'est ce qu'on parraine par exemple. Et puis ensuite, on a été invité au Salon du Livre à présenter deux. Pierre Foncazer animera deux rencontres. Au Salon du Livre, on ne sait pas encore tout à fait bien l'horaire, mais ce sera prochainement sur notre blog, toutes ces informations-là. Et puis le 24 avril, on a une soirée spéciale au Café littéraire de Vevey, une soirée spéciale poésie animée par David André. Donc, c'est un mois où il y a énormément de choses.
Riche.
Riche.
Absolument.
Exactement.
Absolument. Est-ce que vous avez pensé un jour faire un prix littéraire, tu l'as lu par exemple? C'est quelque chose qui pourrait être envisageable?
Oui, alors on avait déjà lancé un concours en 2014, enfin 2013-2014, des piécettes de théâtre. Ça, on avait fait, on avait beaucoup de plaisir, mais encore une fois, ça demande vraiment d'avoir une équipe qui est renforcée, parce que là, on est un peu dépassé. Ça veut dire qu'il faut constituer aussi un autre comité de lecture. Ça prend énormément de temps. Donc oui, moi, j'aimerais bien que ça se développe. Je crois que le comité aussi. On est assez ouvert à tout, en fait. C'est simplement qu'il faut avoir des gens qui nous rejoignent, des gens qui participent. Voilà, là, je pense qu'on manque de force. Mais oui, pourquoi pas?
Pourquoi pas? Peut-être à l'avenir.
Voilà.
Ben, Carole Duby, je vous remercie beaucoup. J'encourage les gens qui nous écoutent donc à se connecter sur tulalu.ch avec toutes les informations sur l'association. Également, beaucoup de photos qui sont mises en ligne.
Oui,
des comptes rendus. voilà, absolument. Et au plaisir de vous voir prochainement à une soirée Tu l'as lu ou ailleurs, peut-être au Salon du Livre ou alors au projet La Maison Éclose qui aura lieu dans le cadre de la Nuit de la Lecture à Lausanne.
Oui, ben merci beaucoup.
Merci beaucoup et puis à très bientôt.
À bientôt, merci.
C'était le 7e épisode de Lettres romandes, un podcast proposé par Julien Sansonance. Merci à Carole Duby. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes ou nous retrouver sur lettresromandes au pluriel.ch.